Bonjour à tous, chers auditeurs. Vous avez écouté le petit bazar précédemment, suivi de quelques minutes de bande continue. À présent, comme tous les dimanches, de 14 à 15, c'est l'émission Musique, etc. qui commence. Générique. Bonjour à tous, chers auditeurs. Comme je disais il y a quelques instants, c'est le début de Musique, etc., une émission musicale de Radio Canu qui a lieu tous les dimanches de 14 à 15 sur le 102.2 et sur radiocanu.org. Une émission consacrée essentiellement à la scène émergente et alternative. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir dans le studio de Radio Canu pour Musique, etc., deux membres du groupe Tchébec, j'y arrive. Voilà, en la personne de Fred et Clément. Fred, Clément, Tchébec, bonjour. Bienvenue.
Bonjour.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas votre musique, on va y assez rapidement un morceau, mais peut-être faire un petit. Déjà, peut-être dire ce que vous faites tous les deux dans le groupe, Fred et Clément.
Alors, Clément, il est batteur maintenant, batteur-bassiste, et moi, je suis guitariste-chanteur. Voilà.
Et peut-être une petite histoire un petit historique du groupe Tchébec. Ça fait combien de temps que ça existe? Comment vous êtes rencontrés? Je crois qu'il y a une petite modification dans l'équipe. Je crois que vous étiez trois à l'origine. Maintenant, vous êtes deux.
Donc, voilà, on était trois. Donc, il y avait Aubry qui a enregistré sur l'album la batterie. Là. Donc, on a joué à peu près 2 ans et demi, 3 ans ensemble.
Ah oui, c'est ouais. Ça, ouais. 2 ans.
2 ans, ouais, peut-être plutôt. Et suite à un concert où il ne pouvait pas venir, on a. Clément est parti sur la batterie et ça sonnait très bien et du coup on a continué comme ça.
Parce qu'à la base je suis batteur et dans Tchébec j'avais pris la basse parce que j'étais un batteur qui s'est dit tiens j'aimerais bien faire de la basse, donc c'est comme ça que j'ai commencé la basse, c'est avec Tchébec il y a 2 ans. Et puis voilà, donc Aubry on a dépanné sur un concert l'absence d'Aubry. Et puis voilà, ça s'est aussi ajouté au fait qu'Aubry professionnellement avait aussi bien à faire et qu'il avait du mal à s'investir dans le groupe, enfin tout du moins autant que nous. Donc ça faisait d'une pierre deux coups, quoi, je veux dire. Donc voilà, donc maintenant on est plus que tous les deux.
Et comment tu te débrouilles avec une basse et une batterie?
Alors en concert j'ai qu'un seul des deux instruments, à savoir la batterie, parce que voilà, je le rappelle, moi, je suis batteur à la base, et du coup bah les lignes de basse moi maintenant je les enregistre et je les envoie en sample en live, voilà. Donc en live je suis à la batterie avec Fred à la guitare et la basse est lancée en sample.
Et ça permet quand même un peu, je trouve pas le mot, de faire des choses qui sont pas prévues en fait, ou alors c'est vraiment.
Ah bah non, c'est un petit peu la contrainte de jouer avec des pistes samplées, c'est qu'effectivement on est un petit peu pieds poings liés à l'informatique, quoi.
Les morceaux sont en fait très calibrés, très.
Ouais voilà. Alors pour l'instant, c'est sûr que voilà, c'était les premiers concerts, rien. N'empêche qu'à l'avenir on rajoute aussi peut-être des petits sons, ou enfin on veut pas non plus surcharger le principe du sample, quoi, mais par contre là, rien n'empêche qu'on rajoute des petites choses. Cela dit, effectivement ça contraint quand même pas mal le jeu à être très calibré et très chronométré, quoi.
Ouais, jouer au clic c'est super carré, quoi.
Et vous, et Fred et Clément, vous êtes rencontrés comment tous les deux? Comment est né Tchébec en fait?
En fait, c'est moi. En fait, j'ai mis des annonces parce que j'avais une formation avant qui a duré que 6 ans. En fait, c'est déjà pas mal.
Tu peux peut-être citer peut-être qu'il y a des gens qui.
Ouais, c'était Gono, ouais, non, on n'a pas énormément tourné non plus. Et voilà, j'ai eu un passage sur 2-3 ans où j'ai absolument rien fait. Et après, j'ai voulu reconstruire, j'avais des textes, des musiques. Donc j'ai mis une annonce, je suis tombé sur Aubry, le batteur, là. Et il manquait le bassiste, et Clément est arrivé, et tout de suite, j'ai pas cherché 36 musiciens, les deux ont. Ça a été deux bonnes rencontres, en fait. Donc on n'est pas potes du tout à la base.
Voilà, à la base, des potes c'était juste une rencontre, voilà, une rencontre d'annonce.
Une bonne rencontre.
Voilà, qui s'est bien. Qui humainement aussi a bien fonctionné. Mm.
Le nom du groupe, Chebec, ça vient d'où?
Alors Chebec, l'origine, donc. Chebec, c'est un navire pirate et marmar. Donc on trouvait que ça sonnait bien avec. Avec notre musique, avec ce qu'on était, avec. Et on a gardé ça, on a rajouté un K à la fin, parce que le mot Chebec, ça se finit par C, pour rappeler un petit peu le côté rock'n'roll, voilà.
Et pour votre style musical, on parlera de quoi pour Chebec ?
Rock français, voilà. Mm-hmm.
Alors je vous propose d'écouter un premier morceau pour ceux qui connaissent pas encore votre musique. Donc cet extrait d'un album qui vient de sortir, enfin qui est sorti il y a quelques semaines, un peu avant l'été, c'est ça ? Mmh.
Tout à fait.
Au début de l'été, qui s'appelle Debout sur les marches, c'est Chebec, et c'est la chanson qui ouvre l'album, qui s'appelle Fin du monde, Chebec dans musique, etc. We'll be right back. Chebec avec le morceau Fin du Monde, extrait donc de leur album Debout sur les marches. Alors Chebec, peut-être, donc c'est le morceau qui ouvre l'album, peut-être dire un mot sur sur ce premier morceau, l'évoquer, peut-être sur le sens du texte, puis aussi peut-être l'histoire de sa composition.
Mm-hmm. Alors bon, au niveau du sens du texte, je pense que tout le monde a compris, c'est un peu ce constat tragique de la planète sur laquelle on vit, quoi. C'est un petit peu du grand n'importe quoi. On est un peu tous responsables, hein, ça je vais pas faire... Mais par contre, je trouve qu'il y en a quand même qui font rien pour, et ça me dérange vraiment, quoi. Donc c'était voilà, c'est un peu dire au peuple, voilà, faut se bouger, faut ça viendra d'en bas, ça viendra pas d'en haut. Voilà.
On peut dire que, enfin, je te demande confirmation, qu'il y a un côté, enfin, un côté militant dans les textes que véhicule Chebec.
Militant, non, pas forcément. Non, c'est surtout, je pense, intérieurement où ça bouillonne et voilà, ça ressort comme ça. Moi, je travaille dans la nature, donc je vois un petit peu toute l'évolution. Comme beaucoup, mais voilà, il y a un côté amer, quoi. Il y a un côté.
C'est plus revendicateur que militant, voilà, voilà, partisan, tout ça. Pas spécialement, mais c'est plus. Enfin, je dirais que c'est plus voilà, revendicateur que militant et partisan, quoi.
Voilà. Mais peut-être un côté écorché vif aussi, plus que militant, non ? Enfin, un peu à fleur de peau, quoi.
Oui, oui, bah, ça, je pense que ça se ressent dans la musique aussi. Il y a une certaine violence à des moments où. Voilà, ça sort, faut que ça sorte, faut que ça...
Et sur le processus de création, à strictement parler de ce morceau, il y a une histoire particulière, enfin, au niveau de la mise en place. Il est né, comment est-il né, en fait ?
En fait, il est né quand même il y a quelques années, avant de connaître Aubry et Clément, là. Et c'était un morceau que j'avais en réserve, et je ne l'ai jamais lâché, parce que je pense que, pour moi, le texte, il est très important. Et c'est avec Chebec qu'on met en musique. Et voilà, en fait, j'ai amené sur ce morceau là les paroles et la guitare et dessus. Mmh.
Comme essentiellement, d'ailleurs, enfin, sur beaucoup de titres, Fred avait déjà des idées qui germaient depuis quelques temps. Mmh. Voilà, alors c'était juste une piste de gratte comme ça qu'il nous présentait. Et puis après, ça n'a pas empêché que, voilà, Aubry, comme moi, on amenait des petites modifs, des petites choses comme ça. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, la plupart des titres, c'était des choses que Fred avait déjà un petit peu avait fait germer dans son coin, donc aussi bien sur les textes que sur la musique. À part des petites interventions comme ça qu'on s'est permis, et puis enfin bref,
mais chacun
ce qui est très ouvert, voilà.
On chacun a chacun
à sa place.
Il n'y a pas de directive, il n'y a pas de. Non. Moi, je veux pas être le dictateur qui dit c'est comme ça. Non. Sinon, il n'y a plus d'intérêt, je pense, pour eux de...
Voilà, si beaucoup de choses viennent de lui, c'est pas pour autant qu'il nous interdit quoi que ce soit. Mmh. Heureusement.
Et le choix d'ouvrir l'album avec ce morceau, il y a une raison particulière, enfin.
Bah, il y avait le côté fin du monde, et c'est le début du morceau, quoi. Je veux dire, voilà, qu'est-ce que la prochaine étape, c'est quoi ? Est-ce que c'est quelque chose qui commence, ou est-ce que c'est quelque chose qui finit, ou est-ce que c'est quelque chose qui finit pour peut-être une autre qui va commencer ? Enfin bref, c'était dans cette idée-là de laisser ouvert à ce genre d'hypothèse.
Parce que souvent les artistes me disent qu'ils font très attention à l'ordre des morceaux quand ils construisent un disque, enfin qui l'ordre des morceaux est quand même important pour qu'il y ait une homogénéité dans l'album, c'est votre cas.
Oui, non, effectivement, on n'a pas balancé les morceaux les uns après les autres. Il y a une réflexion quand même. On s'est concerté. Non, il y a un choix au niveau des au niveau de la place des morceaux.
Mais surtout
exemple,
des dynamiques peut-être.
Des dynamiques aussi.
Plus, ouais. Pas forcément. Ouais. C'est pas essentiellement basé que sur le sens ou enfin tout ce que je veux dire. On déroule l'album. Pas que dans le sens des morceaux, mais aussi dans leur dynamique. Donc bon, effectivement, il y avait un peu de travail là-dessus. Voilà.
Et vos références musicales à tous les deux, Fred et Clément, les choses que vous avez beaucoup écoutées, qui ont peut-être nourri de Chebec, mais aussi qui ont nourri votre vie d'auditeur de musique.
Mmh. Au niveau rock français, moi je suis... Noir Désir, ça reste quand même la référence, je trouve, du rock français. Il y a Eiffel, j'aime beaucoup. Après Pixies, j'ai énormément écouté Pixies, les 16 Ounce Power, enfin ce genre, Radiohead, j'ai beaucoup écouté aussi. Voilà, toi Clément, c'était...
Alors moi, à la base, pas vraiment, j'étais pas très rock français, je venais même du métal, donc j'ai pas mal suivi et puis joué un petit peu sur la scène métal lyonnaise. Et puis bon, alors forcément, à force de jouer, on se dirige aussi vers plein d'autres choses. Donc même si mes racines sont très rock, mais plus pas français quoi, rock américain ou anglais, effectivement après, donc dans ces influences là au tout départ, moi j'écoutais des trucs, c'était Slayer, enfin des choses comme ça quoi, du metal Sepultura et tout. Après je me suis plus tourné vers des choses accessibles, genre de la fusion, Rage Against the Machine, des choses comme ça, déjà un peu plus bien péchu mais un peu moins violente. Voilà, et puis après maintenant j'écoute vraiment tout, j'aime beaucoup le jazz rock, funk, le groove, voilà, donc j'ai pas mal de références aussi bien maintenant jazzy, funk, voilà, j'aime beaucoup de choses dans ce registre-là.
des gestes similaires.
Chebec avec le morceau Debout sur les marches qui donne donc son nom à l'album. Mm-hmm. Dire un mot sur ce morceau Chebec, sur ce. Alors peut-être une question simple, pourquoi déjà vous avez choisi ce morceau-là pour donner son nom au disque?
Debout sur les marches, en fait, c'est dedans il y a cette notion de hauteur, en fait. Et en fait, c'est prendre de la hauteur, mais pas pour dominer, en fait, c'est juste pour avoir un constat, en fait, dans le monde dans lequel on vit, et voilà, se rendre compte que c'est pas génial, en fait. Mais il faut monter sur ces marches pour avoir cet œil-là, voilà. C'était un petit peu l'idée, et voilà, d'où le nom de l'album, Debout sur les marches.
Et on peut dire que c'est votre single, cette chanson, non? C'est peut-être une des plus accrocheuses, non?
Ouais,
ouais. Enfin,
si, si. Mmh. Mmh. Tout à fait, on a pas mal de retours sur ce titre-là, comme quoi, ouais, ça, il marque un peu plus que les autres.
Et pourtant, avec l'intro. Dans un schéma couplet-refrain, mais voilà, c'est quand même celui-là que les gens retiennent.
On a beaucoup de retours, ouais, sur ce morceau.
Et ça, la première fois qu'on joue le morceau, on sent que le morceau est peut-être un peu particulier, qu'il sort un peu de par rapport au. Il est peut-être plus marquant que les autres, non? On le sent en tant que musicien, ou en fait c'est l'expérience de la scène, ou le fait de faire écouter le disque et les retours qu'on en a qui.
Si, on sait, effectivement. Je dirais qu'en répète, des fois, si on le sent, on se dit, tiens, celui-là, enfin. Il va tout défoncer, ou alors. Mais bon, on a aussi cette sensation sur d'autres, sur lesquels on n'a pas forcément beaucoup plus de retours, voilà. Mais en tout cas, effectivement, pour le coup, ouais, Debout sur les marches, c'était un titre qui a fait partie de ceux où on s'est dit, putain, celui-là, ça fait quelque chose, enfin, ça nous fait quelque chose, et faut le mettre en avant, ouais, voilà, ouais, faut le faire sortir. Donc, on trouvait ça bien aussi, du coup, que ce soit le titre éponyme de l'album, parce que voilà, il y avait quelque chose.
Il y a ce petit côté rythmique qui fait qu'on a envie de, je pense, hein, qu'on a envie de bouger dessus, qu'on a envie de.
Ouais, ouais.
Non, puis comme je vous disais hors antenne, il y a une intro qui est mortelle. Enfin, l'intro est vraiment réussie, quoi. Et puis.
Ah, on est content, ouais. On est content, nous. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est assez efficace, quoi. C'est-à-dire que boum, il y a la grosse caisse qui arrive, paf, paf, sur un plan de basse. Ça va pas chercher non plus midi à 14h, mais c'est efficace, quoi.
Puis c'est vrai que les morceaux de Chebec, ils sont construits où on passe du calme à quelque chose d'assez violent, assez péchu, et c'est un petit peu la carte d'identité de Chebec, quoi. Ça se passe souvent comme ça, quoi. On aime surprendre, on aime balancer une énergie à un moment où les gens ne s'attendent pas forcément à ça. Voilà, c'est un petit peu notre signature, quoi.
Et votre formation musicale, à tous les deux, Fred, la guitare, le chant, comment tu as appris à jouer de la guitare? Enfin, c'était plutôt autodidacte ou des cours, le conservatoire, je sais pas.
Non, pas du tout. Non, j'ai pris quelques cours, comme beaucoup, et après, je me suis débrouillé, en fait. Je suis pas un bon musicien, voilà, je sais surtout jouer mes morceaux, en fait. Ça paraît égoïste, mais non, c'est... Mais en fait, ouais, non, je suis pas fort pour les reprises, et c'est plutôt un complexe pour moi d'aller toucher aux reprises, tout ça, non. C'est déjà bien fait d'origine, donc je veux pas... Mais ouais. c'est personnel. Hein.
Mais tu préfères faire ton truc, en fait, et c'est pas plus mal.
C'est pas que je préfère, c'est que c'est... Ouais. c'est voilà, je sais faire ça, voilà. Et c'est ce qui m'intéresse aussi. Je suis assez boulimique dans les. J'ai soif de composer. J'ai toujours des plans. Il me faut des plans. Il me faut des textes. Il me faut. Voilà, c'est comme ça.
Clément, la batterie et la basse, comment tu as appris?
Bah, la batterie, j'ai commencé dans une école de musique, de village, donc avec plusieurs disciplines la première année, là, les percussions, donc caisse claire, tout ça, percu classique. Puis très rapidement, je me suis mis à prendre des cours individuels. Et je remercie d'ailleurs Romain Gartner qui peut-être nous écoute, qui est un excellent batteur qui joue dans Pepper Noster, qui était mon professeur, qui est devenu un ami depuis. Donc j'ai pris pendant des années des cours avec lui. Donc voilà, et puis ensuite j'ai volé mes propres ailes entre guillemets. Et puis pour ce qui concerne la basse, au tout début de chez Beck, c'était un instrument déjà qui m'a, déjà quand je jouais de la batterie, qui me plaisait vachement parce qu'il y avait la notion rythmique, le côté fat du truc que j'aimais bien de la basse. Et puis j'ai fini par m'y mettre un jour, et puis voilà, donc j'ai cherché un groupe pour pouvoir m'exercer. Et ce groupe-là, c'était chez Beck. Alors les tout premiers temps, j'ai commencé avec un copain, on faisait juste un petit duo acoustique de chansons françaises. Et puis après, je voulais vraiment un truc électrifié en groupe. Et donc, j'ai trouvé chez Beck. Voilà. Mais pour la basse, pas de formation académique particulière.
Et sur quel, donc avant vous étiez un trio, maintenant vous êtes un duo, et sur quel principe fonctionne le duo de chez Beck? Qu'est-ce qui fait en fait que ça fonctionne, que vous êtes content de faire de la musique ensemble, que vous êtes productif, vous faites des concerts? L'alchimie chez Beck, le ce qui fait que entre tous les deux, entre Fred et Clément,
il y a déjà une partie de hasard qui fait que il fallait que humainement ça colle. Et puis bon, voilà, là pour le coup de chance, humainement ça colle. Et puis après sur le côté compo et musique, comment dire, on amène chacun nos idées. Et puis pareil, coup de bol aussi, les idées de l'un plaisent à l'autre et inversement. Donc non, franchement ça va. Du coup à deux maintenant aussi, ça va très très vite parce que poum, ça fuse. On met de côté ce qu'on veut pas, ou bien ce qu'on veut juste laisser un petit peu décanter, et puis on se concentre directement sur...
Oui, il y aura certainement une meilleure efficacité dans les nouvelles compos, parce que justement on est que deux et c'est beaucoup plus facile de se retrouver déjà, et puis d'intensifier le travail, ouais, ça c'est clair.
Puis moi des fois en bossant des plans, soit de batterie, soit de basse, je me dis ah ouais tiens, voilà, que le bassiste soit le batteur. Rythmiquement, j'ai des trucs aussi qui vont du coup assez rapidement. Après, ça nous cantonne à avoir à être dépendant de l'ordinateur, mais sinon, ça va très très vite. Moi, je trouve maintenant.
Vous connaissez très bien en tant que musicien, on peut dire. Enfin,
on se connaît même presque plus comme musicien que qu'humainement, parce que on se connaissait pas avant. Mais du coup, la musique permet à ce qu'on se connaisse un petit peu plus au fil du temps. Humainement, mais non, musicalement, c'est clair que ça colle, ça colle, ça fonctionne. Donc tant que ça fonctionne, on y va. Voilà.
C'est l'engrenage insupportable, c'est le prix à payer pour subsister. Elle traîne dans les rues de Pigalle, à ranger ses messieurs, elle déteste ça. Oublier, elle se déchire. L'activité est là, il faut aller vite, le compteur aux fesses. Y'a le feu, y'a le feu, y'a le feu, sous les gorges, la lame, parce que derrière, y'a le Mac. Grosse caisse médaillée orfèvre, il a l'œil d'un faucon, d'un vautour des airs. Pas d'humanisme, du mécanisme, obéissance ou sans abstinence.
Chez Beck avec le morceau Elle traîne, toujours extrait de leur album Debout sur les marches. On évoque ensemble cette chanson, une chanson un peu très dure, enfin très réaliste et très violente, si on peut.
Violente, oui, là, c'est un petit peu la souffrance de toutes ces femmes en fait qui sont au sein d'un trafic. Qui est vraiment à dénoncer, quoi. Et voilà, elles ont qu'une issue pour beaucoup, c'est la défonce, et pour oublier un petit peu, voilà, toute cette souffrance qu'elles subissent, en fait, de par les clients, de par le Mac, enfin voilà, quoi. Et en l'occurrence, dans cette chanson, ça finit mal, quoi. Voilà, la mort au bout.
On peut dire que c'est une chanson féministe? Question un peu. C'est un grand mot, non? Je sais pas si c'est. En des termes.
On parlait tout à l'heure que c'était pas. Enfin, Fred n'était pas militant.
Non,
donc,
voilà, c'est.
C'est plus un portrait, on peut dire.
Voilà, ouais. Un portrait, le côté déplorable de la situation, quoi. Et voilà, les filles de l'Est, les filles d'Afrique, c'est. C'est. Ouais, c'est vraiment un trafic horrible, je trouve. C'est. Enfin, moi, j'aime pas ça. Ça me désole de voir tout ça, quoi. Donc voilà, ça ressort comme ça.
Et sur l'aspect plus musical du morceau, à moi de dire, peut-être, non?
Bah, quoi, que dire sur le côté musical? Il y a cette grosse coupure, ouais, au milieu, là, ce côté planant, parce que ça galope un peu tout le long. Enfin, ça commence d'ailleurs direct, ça galope. Et puis c'était, voilà, peut-être pour souligner le côté défonce, justement. Ou
voilà, côté défonce et le côté glauque aussi de la situation. Voilà, c'est un passage assez planant, quoi. On s'imagine un petit peu.
C'est au moment où tu parles du crack, que le passage planant commence. Que la personne se shoot au crack, quoi.
Voilà.
Parce que là, ça galope au départ, je pense. Elle enquille les passes. Enfin, tu vois, je veux dire, il faut maintenir le rythme, machin. Il y a la pression, voilà. Et puis, il y a le moment où, paradoxalement, pour elle en peut plus, mais pour soulager ça, il y a un côté plus calme qui lui est apporté par la défonce, quoi.
On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais y revenir plus précisément. Le processus créatif de Chebec, comment naissent les morceaux, vous partez de quoi? Donc c'est souvent Fred qui amène quelque chose, c'est ça, non? Et comment en fait les morceaux arrivent à maturité, et qu'est-ce qui se passe entre peut-être la première idée qu'a Fred et jusqu'au moment où vous défendez le morceau sur scène, ou vous l'enregistrez, vous passez en maquette ou même en album, quoi?
Alors, en fait, par rapport à l'écriture, en général, j'ai la musique avant et je colle le texte dessus. J'ai du mal à faire l'inverse, souvent ça correspond pas à la musique, tout ça. Donc, l'ordre, c'est un petit peu musique, parole. Et alors, je propose des choses.
Et moi, je dis que c'est de la merde.
Voilà. Alors, soit il y a une structure, c'est assez bien établi, soit c'est un petit peu tout décousu et ensemble. Voilà, on dit, bah là, faudrait un break, machin. Et ça se construit comme
ou
ça.
Ou alors, des fois, Fred présente un riff et puis. Puis, est-ce que tu. Enfin, moi, je trouve qu'il est vachement compliqué, il est vachement tordu. Est-ce qu'il y aurait moyen de garder cette même base harmonique et puis un peu rythmique, mais quand même en essayant de soulager le côté tordu, machin, parce qu'il apporte toujours des trucs.
À chaque fois, je dis non, c'est moi qui commande.
Donc, Donc voilà, après, c'est comme. On fait chacun des. On propose des choses et on dispose, et voilà, des fois, c'est mieux. Tant mieux.
Ça passe par des bœufs, non, par exemple, ou...
Il balance son riff, et hop, vas-y, il le fait tourner. Alors, c'était de la même manière, ça se passait pareil aussi avec Aubry, hein. Là, on parle de nous deux, mais avec Aubry, ça se passait un peu pareil. C'est que, voilà, Fred faisait tourner son riff, hop, il calait un morceau de batterie dessus. Moi, j'essayais de déterminer un petit peu, une ligne de basse. On s'est tourné. Quand ça me chagrinait, je m'arrêtais. Ça n'empêchait pas les deux autres de continuer à bosser tous les deux. Non, effectivement, ouais, ça tourne un peu comme ça. On buffe en disant, bah voilà, tiens, je lance un plan. Est-ce que ça peut coller dessus? Et on fait des essais. Ouais, effectivement, ça fonctionne un peu comme ça. On ne fonctionne pas vraiment avec le côté, tiens, j'ai enregistré un truc, bosse-le chez toi, tout ça. Pas trop. Ça se fait vraiment au répète, en live.
Et les textes de Fred arrivent tout à la fin, en fait, une fois que le morceau...
Non, en général,
non.
Je les ai dit.
Ah non, il y a déjà des...
Enfin, c'est pas vraiment un boss, c'est-à-dire que j'amène un petit peu la musique, quoi.
D'ailleurs, on bosse d'ailleurs la musique.
Ouais,
et même si lui, il a déjà une idée du texte, enfin, t'as déjà un texte déroulé, si jamais on fait des modifications... Tu modifies aussi tes placements de texte.
Oui, pour
de
pas texte. Non plus les influencer dans le choix mélodique de la basse, tout ça. Donc j'amène souvent le chant un petit peu après.
Et une question, on vient de parler du processus de création, une question que j'aime bien poser, qui revient souvent dans l'émission, c'est est-ce que vous sauriez analyser vos motivations pour créer de la musique, pour en faire, comme je dis souvent, il y a beaucoup de gens qui écoutent de la musique, qui en sont fans, mais c'est pas tout le monde qui apprend à jouer d'un instrument, qui en fait des morceaux, qui va les défendre sur scène, qui en fait des disques. Est-ce que vous sauriez un petit peu analyser ce qui vous pousse à créer et à jouer de la musique?
Ouais, alors c'est vrai que des fois pas mal de musiciens se posent la question, ou on peut tomber dans le piège de est-ce qu'on fait de la musique pour des musiciens, c'est-à-dire que est-ce que le plaisir qu'on va avoir à écouter la musique, c'est parce que on est aussi musicien et que notre écoute est axée en tant que musicien, ou est-ce qu'on fait aussi de la musique simplement parce que le son, la texture sonore nous plaît et puis qu'on veut juste en profiter tel quel. C'est un petit peu entre les deux. Enfin, moi je sais que je me questionne assez souvent là-dessus, en me disant des fois, si je réfléchis comme un musicien, je me dis tu vas peut-être plus être basé sur la technique et tout, à faire sonner un truc comme ça. Mais d'un autre côté, tu te dis qu'aussi, des fois, le truc efficace, sans se prendre la tête, peut fonctionner aussi à fond. Donc t'oscilles un petit peu entre les deux, t'essayes de pas en faire trop d'un côté ni en faire trop dans l'autre, mais avant tout jamais se forcer, quoi, parce que là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, et le but c'est quand même de se faire plaisir. Donc si de toute façon, si à un moment donné il y a quelque chose où moi je suis pas à l'aise et je me fais pas plaisir, je le fais pas. Après, ça m'empêche pas de me poser quelques questions sur ces deux pans. Mais sinon, je le fais pas.
On peut dire que ton moteur, c'est le plaisir.
Ouais. Ah bah, c'est clair.
Moi, c'est plus la passion, quoi. Ouais. Je suis un passionné, en fait. J'aime créer, j'aime composer. Mais j'aime beaucoup écouter aussi. Beaucoup écouter la musique, ouais. Et j'ai pas d'autre passion. Donc c'est, à part ma famille, voilà.
Et le plaisir de créer, tu serais un peu...
C'est des sensations, non, ça c'est clair, c'est des super sensations.
Il y a certains artistes qui me disent que, quand on trouve un truc, c'est presque, il y a presque un plaisir physique, quoi. À trouver, un riff,
Et puis sentir les choses, se dire ça peut donner quelque chose, et creuser les choses et en sortir une belle chanson, ouais, c'est.
Et puis des fois, il n'y a même pas besoin forcément de creuser. Des fois, tu balances un truc et puis tu sais pas pourquoi. T'as des frissons, tu te dis, ce que je ressens, c'est mortel. Après, savoir si c'est bien, pas bien, compliqué ou pas, machin, peu importe. Mais tu te dis que ce que tu ressens, c'est d'enfer. Alors on y va.
Il y a dans les mers des déjections dans la nausée humaine. Remonter des bords de mon ras-le-bol des marées, dans l'immensité des océans, des eaux sans vie croupie. Alors que du drap lueur déverse et elle devise sur les pistes, et sur ses bateaux pirates on voit des têtes de mort. Et sur ses bateaux tout autour de ces grands chalutiers, la flotte des mouettes a sombré. Le poisson de prestige a bel et bien un goût irradié. Le ventre de la mer dans lequel on a tous un jour baigné. A profondément mal sur le cordon, on l'a coupé. Et sur ces bateaux pirates, on voit des têtes de mort.
Chez Beck avec le morceau La nausée humaine, toujours extrait de l'album Debout sur les marches. On évoque ensemble cette chanson, La nausée humaine, les Chez Beck.
Alors, La nausée humaine, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un petit peu sur tous ces océans, toutes ces mers qui deviennent une véritable poubelle. Et voilà, tous ces chalutiers qui déversent toute leur merde dans les océans. Derrière, c'est toute la chaîne animale qui souffre. Enfin, c'est pas super gay, quoi. Mais voilà, c'est un petit peu stora, je pense, qu'il y a au fond de moi. Et voilà, j'avais envie de parler des mers et des océans et de dénoncer tous ces pirates. Voilà.
Alors, depuis le début de l'émission, on écoute l'album Debout sur les marches. Alors, peut-être y venir doucement, cet album, savoir comment il a vu le jour, et puis également parler peut-être à tous les deux de votre expérience du studio. Peut-être dire, ouais, qui, parler de votre ingénieur du son aussi.
C'est Patrick Rosa. Donc,
qui nous suit depuis,
voilà, qui nous presque suit depuis le début, en fait, depuis notre première date.
Depuis notre premier concert, ouais.
Donc, il était ingénieur du son à la Cavanote, c'était une salle à Savigny. Et vraiment, il nous avait fait un super son ce soir-là, et il avait vraiment bien aimé ce qu'on faisait. Et il nous avait proposé de nous suivre pour
nous faire le son sur les prochaines dates.
Et il est toujours là.
Il est toujours là, c'est, voilà.
Et en studio, c'était lui aussi.
Voilà, oui, c'est son studio d'ailleurs, le studio Lakota. Donc au départ, il n'avait pas de studio quand justement on l'a rencontré. Il nous proposait juste de nous suivre pour les dates. Et puis voilà, au fur et à mesure, le répertoire s'est offert. Voilà, et puis est venu l'envie de les mettre, de les graver dans la pierre. Donc voilà, Patrick nous a dit, bah voilà, moi j'ai un studio, on se fait ça, et voilà. C'est comme ça.
Et plus personnellement, tous les deux, votre expérience du studio, c'est un plaisir, c'est du boulot, c'est un passage obligé,
Moi, j'ai pas d'expérience de studio, en fait. C'était vraiment ma première expérience. Ouais, on avait bidouillé des choses ensemble, mais dans un local, c'était pas le studio d'enregistrement non plus. Donc c'est une très très, très très bonne expérience. Alors après, c'était un petit peu du live, hein, je veux dire, c'était pas instrument par instrument.
Ouais, c'était enregistré live, ouais.
Vous avez joué tous les trois.
Voilà. Bah, déjà dans un gain de temps, et puis de budget aussi, parce que c'est...
De budget. Voilà, et surtout, on a voulu donner la couleur comme si on était en live. Voilà. On a pas rajouté de chœur, on n'a pas rajouté d'autres instruments, c'est vraiment comme on peut nous écouter en concert. Voilà.
C'est assez fidèle au son de Chez Beck sur scène.
Voilà, exactement.
Et la voix vient après, par contre, tu as posé la voix tout à la fin, j'imagine.
Après.
Et en fait, est-ce que vous pensez qu'on peut créer en studio, on a le temps de créer des morceaux ou...
Non, après, c'est en termes de budget, c'est pas possible.
C'est pas possible.
Si tu peux, si t'as les moyens.
C'est souvent ce que disent les musiciens. Ouais, c'est fini l'époque où en fait le producteur disait vous partez 6 mois en studio, faites-moi un album, ça c'est fini.
Après, c'est vrai que bon, Patrick est un copain aussi. On sait qu'avec lui, on peut se permettre de tester des choses en studio. Mais là, c'était pas trop le but. Là, c'était vraiment, allez, faut qu'on fasse un truc à trois, qu'on montre ce que ça donne quand on joue tous les trois. Voilà. Après, moi, pour ma part, je sais que c'était pas la première fois que je rentrais en studio. Et c'est vrai que c'est vraiment un travail à part. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec le live ou la répète. Enfin bref, c'est vraiment un boulot à part entière. Donc c'est vrai que généralement, c'est souvent des choses qui sont quand même vachement travaillées en amont. Donc peu de place pour le côté composé en studio et tout. Moi j'ai jamais eu vraiment l'occasion, mais bon, je dis pas que ça puisse pas être faisable, hein, mais voilà. C'est...
Et vous avez mis combien de temps pour enregistrer les 12 titres en fait?
Putain, je m'en souviens plus. Je crois que juste la partie partie instrument quoi, on a dû mettre 2-3 jours, non?
À peine, ouais.
Ouais, 2-3 jours, 2 jours et demi, 2-3 jours. Et puis après c'est pour des raisons de disponibilité, donc ça s'est fait un peu plus tard, mais le chant, je sais pas combien de temps il nous a fallu. Moi,
ça représente une grosse demi-journée, ouais, pour le chant.
J'imagine qu'en fait, pour boucler ça en si peu de temps, faut les 12 titres, faut quand même avoir vachement répété, faut que les morceaux soient hyper cadrés.
C'est ça. D'où le côté, là c'était pas trop le but de se dire tiens en studio on va encore bosser des choses, non, c'était vraiment bon, les morceaux faut les enquiller,
ouais,
et puis
en studio,
et puis voilà, ouais, faut être prêt quoi.
La jeunesse qui en toi se dérobe, serait-ce l'ange de garde qui déroge infidèle, serait-ce l'ange de l'éternité ou d'une pensée réelle, amnésie perçante dans les temples qui se resserre, annulation plus de souvenance qui se libère, des cases, visage fermé, bras ballant, corps débranché, fonction primaire rouillée, tout était jeté. De passage éliminé d'office, embouteillage des idées, plus jamais serait-ce là un supplice, perte des réflexes, flexion perdue dans des labyrinthes cavernes, et plus la route tourne et plus tout devient terne, non-sens des rythmes frastiques et linguistiques, des ordres du dehors à la périphérie, le vide.
Voilà, Tchébek avec le morceau Amnésie, toujours extrait de l'album Debout sur les marches. On évoque cette chanson, les Tchébek, Amnésie.
Alors, Amnésie, elle est née du fait qu'un jour, c'est une de mes tantes, elle était vraiment pas bien, quoi. Elle était sous cacheton et tout. Et plus de mémoire, plus rien. Là, ça m'avait vraiment fait très très mal. Et j'ai imaginé l'amnésie, cette petite bestiole qui ronge le cerveau, donc voilà, c'est sorti comme ça.
Et sur la facture musicale du morceau, un mot à dire, non ?
Est-ce qu'il y avait des liens,
y a une
vraiment
violence,
Non, là, je pense que je suis pas sûr que la composition ait suivi, enfin, vraiment, on a peut-être pas voulu faire coller absolument, enfin, je pense que c'est pas là-dessus qu'on s'était penché. Enfin, en tout cas, moi, moins que sur les autres, ou simplement, voilà, il y avait des sons à faire sonner, et c'était moi ma préoccupation. Après, c'est effectivement le texte, enfin le lien texte musique, peut-être moins flagrant, mais on est toujours dans la même veine, de façon de des cassures quoi, donc là aussi bien
effectivement sur ce morceau c'est
aussi bien cérébral que rythmique et musical, donc effectivement ouais, il y a toujours ce côté là après je pense qu'il y a eu moins de travail là-dessus que pour certains autres.
Tout à l'heure on évoquait le studio, peut-être maintenant évoquer la scène. Tchébek sur scène, comment ça se passe?
Ça passe bien.
C'est un plaisir.
On
peut dire que Tchébek est un groupe de scène avant tout, non, non?
Bah, c'est compliqué parce que là maintenant on est en pleine justement restructuration.
Ouais, y a des mises
donc
en place,
là maintenant voilà, on est que deux sur scène, donc C'est jamais très évident de passer d'un trio comme ça à un duo juste guitare-batterie. Donc là, pour l'instant, on se rôde. On a eu deux dates qui sont plus ou moins bien passées, mais on est sûr et certain que ça peut fonctionner. Et quoi qu'il en soit, c'est une musique qui s'écoute, qui va se voir, c'est sûr, qui se prend normalement, qui se prend dans la face. Enfin, tu vois, je veux dire. Donc, c'est sûr que le live, ça n'a rien à voir. Voilà ce que je pourrais dire.
Ce que vous travaillez aussi, c'est par rapport au visuel, c'est-à-dire. Comment dans le public on est perçu, donc on veut travailler un petit peu, être tous les deux en avant, c'est pas la batterie derrière, moi devant, non, on est vraiment sur, on veut être sur le même plan, légèrement tourné l'un vers l'autre pour qu'il y ait une forme de complicité, tout ça, et je pense que ça peut être bien.
Et une question qui revient presque à chaque fois dans l'émission, mais que j'aime bien poser, souvent les artistes me disent qu'en fait sur scène il y a une sorte d'ivresse, quoi, que sans avoir rien pris, aucune substance, en fait, quand on est en train de jouer, on arrive à une sorte de d'état second de transe. Est-ce que ça vous le fait, ce côté un peu le fait de planer sur scène en jouant sa musique, quoi?
Ouais, après, suivant comment se déroule le show, s'il n'y a pas de problème technique ou quoi, c'est autre chose. Mais ouais, si, enfin, pour ma part, en tout cas, je sais pas si je parlerai d'ivresse, mais c'est vrai qu'il y a un espèce d'état où tu te rends compte que, hop, tu commences, tac, 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 t'arrives à la fin, et c'est seulement la fin, tu te rends compte que t'étais dans un état et que tu viens de changer d'état, et que tu te dis, bah tiens, mince, ce passage-là, comment j'en ai profité? Je sais que j'en ai profité, mais comment? C'est... En tout cas, c'est sûr et certain que, pour ma part, je suis obligé de faire un travail de mémorisation, de me dire, ah bah tiens, ouais, ce passage-là, je ne l'ai pas vécu comme j'imaginais le vivre. Donc c'est vrai que, voilà, ce qui fait que... Ce qui me fait dire que, visiblement, effectivement, il y a une espèce d'état pas identique à celui d'avant et d'après le show.
Il y a une grosse forme de concentration quand même qui est, pour ma part, qui est assez énorme, le chant, la guitare, les textes, voilà. Donc effectivement, je pense qu'à certains moments on part un petit peu, et sur certains morceaux j'en oublie qu'il y a du monde devant, en fait, mais on est rattrapé aussi par nos yeux qui nous font voir la réalité, et voilà, on est dans différents états, je pense, pendant le concert, ouais.
Puis moi, je pense tellement que notre cerveau nous joue aussi des tours, hein, que ce soit dans la vie quotidienne ou
amnésie.
ou dans ce genre ou en concert. Mais en tout cas, c'est sûr et certain qu'il y a différentes attentions et que cérébrales. Et je suis persuadé qu'en concert, on fait appel à une autre forme d'attention de nous-mêmes, de ce qui nous entoure, notre environnement. Donc effectivement, on peut parler d'un état, d'un autre état. Et moi, je pense que c'est une forme d'attention, en fait, qui est différente.
Alors là, il reste quelques minutes. On a déjà dépassé un petit peu, mais je pense qu'il y aura, le reggae n'aura pas lieu. Vous pourrez simplement écouter du reggae dans une heure sur Radio Canu. Peut-être une dernière question. On va envoyer un dernier morceau. On va dire, on vous retrouve. Je voulais vous poser une question sur la scène lyonnaise. Enfin, c'est une chance pour un groupe d'évoluer à Lyon, pour un groupe émergent, un peu alternatif, ou est-ce qu'il y a des lieux où on peut s'y produire? Est-ce que c'est, ou alors il y a d'autres villes qui seraient plus intéressantes pour
Oui, enfin si, être à Lyon, c'est chouette. Enfin, après, il y a énormément de monde aussi, donc c'est un peu le souci. Donc, le souci, tant mieux. Mais voilà, beaucoup de gens se présentent à des salles, à des endroits de diffusion de la musique. Donc forcément, il y a un choix qui est fait. Bon, après, c'est déjà bien de pouvoir bénéficier d'une scène comme la scène lyonnaise, quoi.
Après, oui, c'est sûr, tout ce qui est petit bar sur Lyon, ça nous intéresse pas. On est plus ouvert aujourd'hui à des festivals, des choses comme ça, quoi, des trucs.
Des petites salles,
voilà.
Et puis, c'est pas forcément une musique, mine de rien, qui se prête aussi au bar, quoi. Donc bon, on y arrive, hein. Ça fait un an qu'on s'était dit, il faut que là, sur l'année qui soit écoulée, on ait fait au moins une date par mois. C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. On repart sur la même estimation. Faire au moins une date par mois, c'est ce qui se présente. Donc là, on est encore en train de caler des choses pour début 2015, et voilà, courant 2015. c'est déjà pas mal, quoi, parce qu'après, il faut aussi intégrer tout ça dans nos emplois du temps. Donc, effectivement, on arrive à trouver notre place et à faire ce qu'on a envie de faire. C'est déjà pas mal.
Les prochains concerts, tu les as en tête ?
Alors, les prochains concerts, on a le 4 octobre au Caveau de Bully, Nous avons le 18 octobre avec Matisse, qui est un artiste lyonnais. On joue en première partie dans une salle qui est toute récente, qui s'appelle La Ruche, à Saint-Étienne-les-Aulières, de mémoire. Donc voilà, ça sera une date très sympa. Le lieu a l'air vraiment hyper culturel et tout récent. On a courant novembre, la date reste à déterminer, aux Olmes, dans l'ouest lyonnais. Décembre, il y aura peut-être aussi une date à confirmer sur Lyon, à la Marquise. Et puis après, là, tout début 2015, on attend des réponses.
On attend des réponses.
Voilà.
Festival. Hein.
Voilà, mais on arrive même un petit peu à s'expatrier. Et on va peut-être faire un festival en Alsace.
Peut-être en Allemagne.
Peut-être en Allemagne aussi. Donc bref, voilà. On a des pistes et puis on les suit. Et en tout cas.
On est ouvert.
Et puis voilà, déjà. Et on arrive à faire ce qui nous plaît. Donc ça, c'est quand même super chouette.
Et pour ceux qui veulent se procurer le disque, il faut...
Alors le disque est complètement autoproduit, donc ils peuvent se les procurer via notre Facebook. Donc ils nous passent un message, une adresse et on envoie le disque, il n'y a pas de souci. 12 titres, 10 euros. Et puis sinon au concert, il y a toujours les disques disponibles. Voilà, donc c'est de l'autoproduction, personne ne nous le distribue. Nous sommes les seuls distributeurs de ce disque. Voilà.
D'accord, on va se quitter en musique. Je tenais à dire oui qu'on pourra écouter cette émission ce soir à partir de 18h sur les blogs de Radio Canu, à la rubrique musique, etc.
Impeccable.
Peut-être que vous mettrez le lien sur votre Facebook éventuellement.
Pas de souci.
Ouais, donc une émission avec Chebec. On a fait un peu le tour, je pense. Quelque chose à ajouter de Chebec dont on n'a pas parlé, non ?
Dont on n'a pas parlé, non. Enfin, il y aurait tellement de choses dont on pourrait parler. Mais comme ça, rapidement, non. Hormis remercier déjà Guillaume Ringuet, merci. Ouais.
Merci à
Petroleum pour.
Je salue Petroleum qui m'a fait vous connaître.
Voilà. Et puis bien sûr, merci à tous ceux qui nous entourent, qui nous soutiennent. Voilà. Donc, merci.
Merci à vous.
Donc, c'était Chebec dans Musique, etc. sur Radio Canu. Et on se quitte avec la chanson qui clôt l'album, qui s'appelle Où aller. À bientôt, Chebec.
Merci. À bientôt.
Au revoir.
Château de cartes qu'on ne pèse même plus, la bassesse de l'humain.
sauter par-dessus la rambarde. Les brouillards et les brumes s'emparent de nos lueurs qu'on oublie.
Voilà, vous avez pu écouter musique, etc., comme tous les dimanches de 14 à 15, et c'était avec le groupe Tchébec. La semaine prochaine, je reçois Peter Alexandre, et pour le moment, je vous laisse avec les bandes continues de Radio Canu, et patientez un petit peu, dans environ moins d'une heure, vous pourrez écouter du reggae sur Radio Canu. À la semaine prochaine, 14-15.